Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les Bulles Nomades, le streetcast optimiste. Je m'appelle Florie Vin, alias Florie Taylor, et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de cultiver notre créativité. Si vous êtes artiste ou que vous pratiquez une activité qui nécessite de faire appel à votre créativité, je pense que l'utilité du sujet est assez évidente, hein ? Mais je pense que même pour celles et ceux qui ne pratiquent pas d'activité créative au sens premier du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas des artistes, des artisans, des créateurs d'objets ou de quelque chose de physique, on va dire, cultiver la créativité au sens large peut être très intéressant quand même, parce que c'est ce qui nous permet de voir le monde autrement. C'est ce qui nous permet de trouver des solutions créatives aux problèmes de la vie quotidienne, et c'est ce qui nous permet de mettre un petit peu de fun, même dans les tâches pas forcément rigolotes qu'on est bien obligé de compléter en tant qu'adulte indépendant. J'en avais un petit peu parlé par le passé de tout ça, notamment dans la vidéo YouTube qui s'appelle « Nous sommes tous créatifs » sur la chaîne Florie Taylor. Si vous suivez la chaîne sur YouTube, si vous écoutez des vidéos YouTube, enfin si vous regardez des vidéos YouTube, donc je vais pas trop détailler cette question-là, mais le message que je veux faire passer, c'est que même si vous ne pratiquez pas d'activité créative au sens premier du terme, donc au sens maker sur le Sparketype, si vous vous souvenez du test Sparketype, peut-être que les pistes de cet épisode vous seront quand même utiles pour une réflexion de créativité au sens large du terme. Le premier conseil pour cultiver notre créativité nous vient d'Elisabeth Gilbert qui conseille de prendre soin de notre animal. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Donc évidemment, je ne parle pas de prendre soin de votre chat, votre chien, votre poisson rouge, etc. Même si je vous encourage vivement à vous occuper de vos animaux de compagnie si vous en avez. Ce qu'Elisabeth Gilbert appelle prendre soin de son animal, c'est prendre soin de son corps, tout simplement. Prendre soin de nous-mêmes en tant que mammifères, en fait, comme on prend soin d'un animal de compagnie, c'est-à-dire nous nourrir convenablement, faire attention qu'on dorme bien, faire attention qu'on est en bonne santé, nous emmener chez le médecin, c'est quelque chose qui va pas, etc., etc. Et en fait, elle utilise cette métaphore pour se rappeler que nous ne sommes pas seulement des cerveaux dans un vaisseau organique, nous sommes un corps biologique à part entière qui a des besoins, qui émet des signaux quand ça va pas, etc., etc. Et ça, ça a un impact sur notre créativité. Quand notre corps ne va pas bien, nos émotions et notre esprit ne vont pas bien non plus. Donc si on ne prend pas bien soin de notre corps, on finit par manquer d'énergie physique, ce qui nuit à notre créativité. En d'autres termes, si on est malade, fatigué, stressé et compagnie, c'est la créativité qui saute en premier parce qu'on se met en mode survie. La priorité devient de combler ses besoins primaires pour notre corps et du coup tout ce qui est créatif passe au second plan. Et ça, je vous en avais déjà parlé dans une bulle nomade, je sais plus si ça l'était 2017 ou 2018, mais c'était une bulle nomade au sujet du sommeil, où j'avais constaté en participant à la Gamescom, qui est un événement de jeux vidéo qui se tient en août, pour le boulot, hein, et j'avais constaté que le manque de sommeil et l'épuisement physique lié à la charge de travail de ce type d'événement avaient complètement éteint ma créativité, et je l'avais vraiment constaté, concrètement cette semaine-là. Alors évidemment qu'on ne peut pas être toujours au top de notre forme, hein. Certains et certaines d'entre nous ont une santé plus fragile que d'autres, et l'objectif ici n'est pas de chercher à être au top de la forme tout le temps, ou de devenir un ou une athlète parfaitement entraînée, etc., c'est pas le but. Je dirais au contraire que c'est important d'écouter notre corps tel qu'il est maintenant, et d'accepter le fait qu'en tant qu'être organique, nous vivons des cycles de variation d'énergie et de forme, que ce soit dans la journée, dans le mois ou même dans l'année. C'est-à-dire que là, par exemple, j'enregistre cet épisode tout début du mois de mars, donc à la fin d'un long hiver bien pluvieux, et autant vous dire que la vitamine D du soleil commence à sérieusement me manquer. En ce moment, je dors 9 heures par nuit, quoi. Voilà, donc cela étant, pour cette première piste d'action pour aider à cultiver la créativité, ce que j'ai envie de vous suggérer, c'est vraiment de penser à prendre soin de soi. Donc manger sainement autant qu'on peut, bien dormir, se bouger un peu à la hauteur de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, etc. Et je vous le dis d'expérience, hein, quand je commence à être hyper enthousiaste sur un projet, il y a un point commun à toutes mes activités, c'est qu'elles sont intellectuelles et se passent essentiellement les fesses vissées à mon siège de bureau. Et bien dès que je commence à être hyper enthousiaste sur un projet, j'ai tendance à laisser tomber toutes les histoires de cuisine, de sport et compagnie, parce que ça me paraît moins important que de terminer ce super livre de science-fiction optimiste ou de terminer ce super projet d'illustration. C'est que j'ai l'impression quelque part que aller faire du sport le matin, mettons à 8h avant de bosser, ou faire du yoga sur la pause midi, ce genre de choses, c'est quelque chose qui m'enlève à ma créativité, à mon écriture, à mes activités d'artiste, où je me dis je préfère passer cette heure-là à créer, à écrire plutôt qu'à aller courir par exemple. Et en fait je me suis rendu compte que cet état d'esprit était hyper contre-productif. Que non, prendre soin de ma santé, faire des pauses, faire un petit peu de sport ou ne serait-ce qu'aller marcher un petit peu, hein, sans parler de faire de la course à pied, prendre le temps de créer des menus qui sont un minimum sains, qui sont équilibrés, qui m'apportent l'énergie et les nutriments dont mon corps a besoin, c'est pas quelque chose qui m'enlève à ma créativité, au contraire. Et ça, je l'ai vu bien de manière assez... stupéfiante lorsque j'ai failli faire un burn-out créatif fin 2019, hein, où j'ai fait que bosser, en mettant de côté le sport, la santé, la nutrition, les pauses, tous ces trucs-là. Et non, ça m'a pas aidé à être plus productive, ça m'a simplement complètement brûlée, et j'ai mis plus de 2 mois à m'en remettre. Donc, et c'est vrai que j'ai l'impression que dans les métiers artistique et aussi dans tout ce qui est entrepreneuriat. Donc quand on crée finalement son propre projet, que le projet dépend que de soi-même, on va avoir tendance à penser que plus on travaille, mieux c'est, plus on fait d'heures sup, mieux c'est, plus on s'échine et plus on passe de temps en fait de notre journée sur le projet, mieux c'est. Et ben là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que pas forcément. Et donc j'ai envie de vous proposer, pour éviter de se retrouver au bord du burn-out créatif comme j'ai pu l'être, mes chers êtres humains, prenons soin de notre animal. Deuxième piste que j'ai envie de vous proposer pour cultiver la créativité, c'est de travailler activement sur les blocages qui remontent à la surface quand on commence à suivre une voie créative, quand on commence à s'ouvrir et à tester des choses nouvelles, encore une fois, même si vos projets, vos idées, vos plans, etc. ne sont pas d'ordre créatif dans le sens premier du terme. La créativité, pour moi, c'est le fond de nous. Quelle que soit la forme qu'elle prend pour vous. Donc ça peut être une forme d'art, ou ça peut être toute autre chose, comme enseigner, prendre soin des autres, etc. Donc là, je vous renvoie encore une fois à l'épisode 91 sur le Spark Type, pour en savoir plus sur les différentes formes que ça peut prendre chez vous. Mais c'est contribuer au monde, en fait, créer quelque chose pour soi-même et pour le monde, c'est pas forcément être un maker qui est un des 10 types du Spark Type, c'est-à-dire créer concrètement une œuvre ou quelque chose. Il y a 9 autres manières de le faire, dont enseigner, inspirer les autres, guider, faire des choses comme le coaching, en fait, accompagner les gens concrètement. Il y a le fait de prendre soin des autres, enfin, il y a plein, il y en a 10 au total. Donc, c'est pas forcément de la créativité, de la création artistique au sens premier du terme. Et dans tous les cas, donc cette créativité au sens large nous guide vers des choses qui nous tiennent à cœur. Pour moi, c'est ce qui nous relie à notre humanité, en fait. Notre créativité, c'est un peu notre voix intérieure, notre âme d'être humain qui parle. Et ça expose nécessairement une certaine vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on sort de notre zone de confort. On va chercher l'ailleurs, on va chercher le nouveau. Et c'est souvent là qu'on a le plus de blocages. Et d'ailleurs, quand on parle de faire preuve de créativité... Par définition, c'est sortir des sentiers battus. Donc il y a forcément un moment où on sort de notre zone de confort. Donc, des exemples de blocages qu'on peut ressentir quand on se lance dans ces trucs-là, que ce soit un petit loisir comme ça dans un coin, ou que ce soit vraiment un vrai gros projet de vie, hein, peu importe l'intensité du truc. On peut se mettre à ressentir des choses comme du syndrome de l'imposteur, différentes peurs, peur du rejet, peur de l'échec, peur de la réussite, et si, ça existe. On peut être confronté à l'impression de n'intéresser personne, ou la peur de n'intéresser personne, de ne pas savoir gérer la réussite, le rejet, toutes ces choses-là. Et si vous voulez en savoir plus sur ces différents sujets de blocage, je pense qu'il y en a plusieurs dont j'ai déjà parlé dans les bulles nomades. Le syndrome de l'imposteur, c'est sûr que j'ai fait un épisode là-dessus, j'ai fait des épisodes sur les différentes peurs, etc. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça si vous ne l'avez pas encore fait. Mais en tout cas, voilà, il y a un tas de blocages qu'on peut ressentir sur ce chemin vers la créativité. Et c'est justement ces choses-là que je partage d'ailleurs dans les bulles nomades. Je partage mon cheminement autour de tout ça. Je le partage aussi dans la lettre créative et optimiste du dimanche matin que j'envoie sous format écrit par email. Je partage aussi ça sur la chaîne YouTube. Ça fait partie des contenus que je partage en fait en tant qu'artiste. C'est ce chemin qui nous guide vers une sorte de zone de confort, vers des peurs, vers des blocages, vers des difficultés qu'on n'avait pas anticipées, etc. Donc, voilà, chacun est différent, Et vous allez peut-être pas ressentir les mêmes blocages que les miens, ou peut-être pas tous. Peut-être que vous allez avoir des blocages que moi j'ai pas connus, ou que j'ai pas encore connus. Mais bien souvent, quelle que soit la nature de ces blocages-là, de ces peurs, de ces émotions finalement, d'anxiété, de choses comme ça, l'impression de pas être à la hauteur, bien souvent, ce sont ces choses-là qui nous empêchent de continuer à créer, qui nous empêchent de continuer à être curieux ou curieuse, et qui nous empêchent d'avancer. Donc tout ça, c'est un vaste sujet, comment gérer ces blocages, et comme je vous disais, j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, je continuerai à en parler sur le podcast. Mais ce que j'ai envie de vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que si vous sentez que quelque chose vous bloque, au lieu de rester bloqué, vous pouvez travailler à débloquer tout ça pour avancer. Et travailler sur ces blocages, c'est une manière en fait de cultiver sa créativité, parce que c'est une manière de faire le chemin pour que la créativité puisse se déployer. Donc chacun sa manière de les traiter, encore une fois, sujet très vaste, mais des pistes en bref, pour vous donner une petite idée de quoi je parle, c'est qu'on peut commencer par les reconnaître et les accepter, ces blocages-là, par exemple en écrivant dans un journal, en parlant à des amis, en parlant à un pro comme un psy ou un ou une coach, un ou une agente, ce genre de choses-là. Autre chose comme piste, c'est de comprendre qu'ils seront plus ou moins toujours là et qu'il va falloir vivre avec, et du coup, expérimenter, être dans l'essai-erreur sur comment est-ce qu'on peut apprendre à avancer en vivant avec. Par exemple, Elisabeth Gilbert, pour en revenir à elle, elle dit « feel the fear and do it anyway », qui veut dire « ressentez la peur et faites-le quand même ». Donc l'idée, c'est pas forcément d'éradiquer ces blocages, mais peut-être de mieux se connaître, en fait, de comprendre ce qui nous retient. Et sur certaines choses, ça va être d'arriver à les lever, ces blocages, et sur d'autres choses, ça va être apprendre à vivre avec, en fait, et à avancer quand même, et à faire quand même. Troisième piste pour cultiver, ou en tout cas encourager le déploiement de notre créativité, c'est autour de notre ego. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis ce podcast sur mon temps et mes données personnelles, et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui le font déjà. Troisième piste de réflexion autour de la créativité, donc, c'est d'identifier et de surmonter les problèmes qui sont liés à l'ego. Alors c'est quelque part lié au blocage, certains blocages sont liés en fait à l'ego, mais là c'est vraiment un thème très particulier sur lequel je voulais faire une piste à part entière. C'est que quand on crée, on devient le vecteur de quelque chose de plus grand que soi. On contribue à notre manière, on fabrique quelque chose, que ce soit concrètement via des œuvres d'art ou via une contribution autre, donc en inspirant, en guidant, en prenant soin, etc., comme je vous expliquais. Mais dans tous les cas, comme c'est quelque chose qui vient de nous, qui vient du fond de nous-mêmes, de notre humanité, l'ego peut venir causer des problèmes parce que c'est notre travail. Quand on crée quelque chose, quand on contribue, c'est notre contribution personnelle. Et du coup, on se retrouve exposé à des critiques négatives que l'on risque de prendre pour soi. On va avoir envie de se défendre, on va se comparer, on va peut-être ressentir de la jalousie vis-à-vis de personnes qui donnent l'impression de mieux faire que nous, etc. En gros, comme c'est quelque chose qui nous tient davantage à cœur, eh ben, on va avoir davantage tendance à s'identifier à notre création, à s'identifier à notre projet, en fait, et à associer notre valeur d'être humain, donc notre valeur de notre ego, quelque part, à ce qu'on crée, à ce qu'on fait. Et ça peut être un énorme blocage pour la créativité, parce que du coup on va avoir peur de cette critique, ou on va penser que ça nous juge nous en tant qu'individu, et ça peut nous empêcher de créer comme on veut, ça peut nous empêcher d'être authentique, et ça peut nous empêcher de le faire en fait, de contribuer, d'oser en fait faire les choses, parce qu'on a cet ego qui parle, qui associe notre valeur d'être humain avec ce qu'on crée. Et on peut se retrouver dans une situation où on veut être reconnu personnellement pour ce qu'on crée, pour ce qu'on apporte, quand on brave nos peurs, quand on ose, etc. Et donc l'ego peut avoir des côtés positifs, hein. Il fait partie de ces choses-là avec lesquelles il faut vivre en tant qu'être humain de toute manière. Mais voilà, notre ego nous aide à survivre en tant qu'être humain, d'avoir un sens de notre identité, d'avoir un sens de nos valeurs, de qui on est. Il y a un côté préservation dans l'ego. Donc c'est pas quelque chose à complètement éradiquer. Mais dans le cadre de la créativité, l'ego peut nous brider plus qu'autre chose. Donc encore une fois, à chacun sa manière de gérer ça, c'est-à-dire que dans cet épisode, j'aborde des sujets qui mériteraient non seulement des épisodes à part entière, mais probablement des séries d'épisodes, et probablement qu'on reparlera de ces sujets-là davantage dans de futures bulles nomades, hein. Mais voilà, la manière de gérer votre ego, ça va dépendre de votre caractère, ça va dépendre de votre philosophie de vie, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir conscience déjà de ça, que l'ego peut venir se mettre au milieu du chemin et de réfléchir à comment vous voulez le gérer. Je vais vous partager ma philosophie de vie à moi, la manière dont je m'efforce de gérer mon propre ego, si ça peut vous fournir quelques pistes de réflexion pour vous-même. En fait, personnellement, j'aime à cultiver une certaine humilité, une certaine modestie quelque part, mais qui soit saine et assertive. C'est-à-dire que je me vois comme le vecteur de quelque chose de plus grand que moi. Cette étincelle de créativité qui nous rend tous humains, c'est une partie de moi, mais c'est quelque chose qui fait partie d'un tout plus grand. Vous savez, j'ai déjà parlé de ma théorie de l'écosystème créatif. C'est-à-dire que pour moi, je suis un élément dans un écosystème créatif qui contient déjà tous les êtres humains passés qui ont ajouté à cet écosystème à leur époque et qui nous restent aujourd'hui dans notre culture collective. Et aussi tous les êtres humains qui existent aujourd'hui et qui contribuent aujourd'hui, ben pour moi, je fais partie de cet écosystème-là. Donc j'ai quelque chose à apporter avec mon étincelle de créativité qui m'est propre en tant qu'être humain, mais je fais partie de cet écosystème qui est plus grand que moi. Et du coup, si on fait mes louanges, si on me fait des compliments, ben je serai reconnaissante d'avoir su cultiver cette créativité et que cette idée soit venue me visiter quelque part, sans pour autant me dire que je suis géniale et mieux que les autres, etc. etc. Donc ça va m'empêcher de choper le melon quelque part, en me disant que bah, c'est quelque chose que j'ai su cultiver grâce à l'écosystème auquel j'appartiens et que je rends à cet écosystème-là. C'est pas moi qui suis un être humain extraordinaire, mieux que les autres, etc. Et à l'inverse, si on vient me critiquer, je me souviens que c'est une réaction chez l'autre, qui est produite, une réaction produite par le contact avec cette étincelle d'humanité que j'amène à travers ce que je fabrique. Et en fait, ça ne remet pas en question ma valeur en tant qu'être humain, c'est que simplement j'ai créé une réaction chez un autre être humain, en fait. Et si je peux tirer des enseignements de ces critiques lorsqu'elles sont constructives, tant mieux. Et je m'emploie à être dans une posture d'écoute et à cultiver la gratitude pour les personnes qui sont suffisamment engagées pour prendre le temps de me le dire. Et pour les critiques qui ne sont pas constructives, c'est que ce que je fais a éveillé quelque chose de négatif ou de douloureux chez l'autre, donc ça a suscité une réaction, ce qui est finalement un peu le but de l'art, non ? Et évidemment, je ne cherche pas à provoquer des réactions négatives chez les gens, c'est pas mon objectif, hein. Personnellement, j'aspire à ce que mon art soit optimiste et encourageant, etc. Mais parfois, ce ne sera malheureusement pas le cas. Et ce que j'espère alors, c'est que cette réaction négative plantera une graine un peu plus constructive au sein de cette personne sur pourquoi ça l'a fait réagir autant. Mais là, finalement, ce n'est plus mon affaire à moi, je ne suis plus en contrôle de ça. C'est l'affaire de la vie intérieure de cette personne-là, ça ne me concerne plus. Et bien évidemment, cet état d'esprit que je viens de vous décrire là, c'est quelque chose que je cultive activement pour désamorcer mon ego. Ce sont des intentions que je formule et sur lesquelles je reviens quand l'ego s'active et que je prends mal quelque chose ou que je me sens menacée personnellement, etc. Je ne suis pas en train de vous dire que j'arrive à penser comme ça à chaque fois que mon ego se trouve attaqué, j'aimerais bien. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Je suis humaine et comme tout le monde, mon ego est là et parfois il s'exprime et parfois je me mets en PLS après avoir reçu une critique négative. Ça arrive et ça continuera à arriver. Ça fait partie du fait d'accepter mon humanité et mon humanitude, mes limites d'être humain. Il y a des limites à ce que je peux, accueillir sans jugement, en mettant mon ego de côté, voilà. Mais disons que de cultiver cette vision des choses me permet de désamorcer un petit peu tout ça et de le désamorcer de mieux en mieux au fil du temps. Et surtout, ça me permet de continuer quand même à créer et à cultiver ma créativité malgré la peur d'avoir mon ego froissé à l'avenir, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà donc quelques pistes pour cultiver la créativité ou on va dire pour créer un terreau qui soit fertile au développement de votre créativité, quelle que soit la forme qu'elle prend. Donc prenons soin de notre animal, de notre corps, de notre santé, donc travaillons activement sur les blocages qui nous empêchent de créer et cultivons un état d'esprit qui permet de désamorcer les réactions de l'ego. Si vous avez d'autres idées ou questionnements à partager sur le sujet, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire sous les notes de l'émission sur floriteller.com/bn118. Par mail à hello@floriteller.com ou sur les réseaux commerciaux, principalement Instagram, où je suis Floriteller. En attendant, merci infiniment d'avoir écouté cette bulle jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !